François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI puisque mardi politique s'est mise en vacances. Vous retrouverez l'émission dès le mois de janvier. Alors Noël, une occasion particulière pour les enfants de recevoir des cadeaux de leurs parents. Qu'est-ce qui les attend au pied du sapin en 2014? La société de consommation impose sa loi et les jeunes sont des cibles privilégiées en cette période festive. Alors comment les parents gèrent-ils cette obligation de plus en plus pressante d'offrir le jouet, l'objet convoité par leur enfant? Cadeau de Noël donc aux enfants, qu'est devenu le rituel? C'est la question qu'on se pose ce soir. Je vous présente les deux invités de cette émission. Michel Fize est sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de l'adolescence, de la jeunesse, de la famille, auteur entre autres du livre Les pièges de la mixité scolaire, c'est aux éditions de la Presse de la Renaissance. Bonsoir à vous Michel Fize.
Bonsoir.
Isabelle Mazarguil est fondatrice de l'Institut Junior & Co et co-auteur de Maman, Papa, la consommation et moi, c'est paru aux éditions EMS, c'était en novembre 2014. Vous êtes malheureusement, vous n'avez pas pu nous rejoindre, vous êtes bloqué dans les embouteillages. Isabelle Mazarguil, bonsoir à vous.
Bonsoir.
J'espère que la ligne a l'air d'être correcte. Nous allons probablement pouvoir avoir la conversation que nous escomptons. Noël, fête de famille, je disais. Et vous dites, vous, Isabelle Mazarguil, que depuis quelques années, le profil des familles françaises a profondément changé. Alors comment en résumer, définir ces ou cette transformation?
Alors moi, je parle moins de profil que de nouvelles pratiques éducatives, je dirais. L'enfant a toujours été au cœur des familles. Mais aujourd'hui, l'épanouissement de l'enfant est la priorité éducative numéro un des parents. Il y a encore quelques années, lorsqu'on menait des études, puisque c'est mon métier, on voyait surtout apparaître des notions de réussite scolaire, d'avenir dans la société, en priorité éducative numéro un chez les parents. Et aujourd'hui, et on l'a observé au travers d'un observatoire autour d'un label qui s'appelle « Approuvé par les familles » que nous publions il y a encore quelques mois, la priorité éducative numéro un, c'est l'épanouissement et le bonheur de l'enfant. Partant de ce principe-là, Noël, les cadeaux, cette démonstration d'affection qui est largement utilisée par les parents à cette occasion, est vraiment un moment qui prend une importance capitale au sein de la famille, avec une envie de la part des parents de ne surtout pas se tromper.
Mmh. L'épanouissement de l'enfant, ça vous paraît être un caractère fondamental de la nouvelle famille, Michel Fize?
Ah, j'aimerais être aussi rassuré que notre interlocutrice, parce que je continue malgré tout de penser que la réussite scolaire dans un monde hyper compétitif qui conditionne une vie sociale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il suffit de se reporter au débat sur le rythme scolaire, où dès lors qu'on parle d'alléger un peu la journée de classe, hein, on a évidemment une montée de boucliers pour dénoncer le lycée light, comme on disait autrefois, s'agissant de l'enseignement secondaire. Alors, par contre, qu'effectivement, si les enquêtes confirmaient qu'on attache un peu plus d'intérêt à l'épanouissement personnel, on ne pourrait naturellement que s'en réjouir, parce qu'on oublie quand même que c'est aussi une des missions de l'école.
Alors, l'épanouissement personnel des enfants, est-ce que le rituel des cadeaux aux enfants, justement, s'en trouve modifié, Isabelle Mazarguil?
Alors, il s'en trouve modifié, oui, parce que on a affaire, du coup, à une démultiplication du nombre de cadeaux, une démultiplication du nombre d'offrandes de cadeaux. On a aujourd'hui des enfants qui ont entre 10 et 20 cadeaux à chaque Noël, sans parler de ceux dont la famille est très élargie ou des familles recomposées. Une démultiplication de cadeaux qui oblige finalement à s'y prendre très tôt, et à établir un espèce de plan de bataille de Noël qui est pour le coup amène quelque chose de très consumériste à une fête qui au départ n'était pas tant que ça. Avec un effet de je produis la liste dès le mois de septembre ou début octobre et je commence à dispatcher tati, tonton, la grand-mère, le grand-père, etc. Et on s'assure qu'à l'arrivée on a une liste au Père Noël qui est complète. Du coup, le rituel de la liste au Père Noël qui se pratique en faisant des gentils découpages dans les catalogues de Noël des distributeurs de jouets dans le courant du mois de novembre a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Voilà.
Alors, vous dites que dans vous dites aussi Isabelle Mazarguil que dans la société de consommation qui est la nôtre, les marques imposent le choix des cadeaux. Alors expliquez-nous comment.
Les marques imposent le choix des cadeaux en particulier de par la pression publicitaire. La pression publicitaire aujourd'hui des marques pourrait en particulier, fait qu'on a affaire à des enfants qui sont très exposés. Il faut aussi bien avoir en tête qu'avant 8-9 ans, c'est très compliqué pour un enfant de faire la différence entre une publicité et une information. Donc, quand des enfants passent quelques heures par jour sur des chaînes jeunesse que je ne citerai pas ici, dans lesquelles il y a des écrans publicitaires de 5 minutes où on leur présente des cadeaux dès le mois de septembre, forcément, on génère une demande derrière. Maintenant, ce qu'on observe, et nous on l'observe particulièrement au travers du label approuvé par les familles qui réunit une communauté de parents testeurs qui élisent du coup les meilleurs jouets testés par les familles, c'est qu'il y a une espèce de retour quand même en arrière avec une volonté de la part des parents de se poser un petit peu en disant finalement... plutôt que de réagir à une demande, il faudrait déjà essayer de savoir si ce produit, ce jouet, qui va à un moment donné satisfaire un plaisir immédiat de l'enfant, va être adopté par l'enfant et par le parent ou pas.
Voilà. Alors, vous constatez, Michel Fils, vous, cette tendance des marques à imposer leur choix aux parents, et puis cette réaction dont parle Isabelle Mazarguil, qui veut qu'on se retire un petit peu de cette obligation-là.
Bah d'abord, il faut à nouveau souligner que le marché du jouet pour enfants est surabondant. Il déborde littéralement. Il suffit d'ouvrir encore les colonnes d'un grand journal du soir pour se rendre compte que chaque grande marque, chaque année, apporte des produits originaux supplémentaires. Donc on remplit encore davantage la marmite des jouets. Et tout ceci, évidemment, se déclinant selon un mode masculin-féminin, pour évidemment ne rater aucune cible potentielle et que chacun soit bien servi en fonction de ses goûts, mais en fonction de son appartenance sexuelle, parce que les marchands ont su aussi remettre sur le devant de la scène le rose et le bleu. Voilà, donc, alors c'est le débat sur le sexisme des jouets, comme l'on dit. Voilà, mais je pense qu'effectivement, les familles se privent sur beaucoup de domaines. Elles ne se privent pas, toujours pas, sur, évidemment, les jouets pour les enfants au moment des fêtes de Noël, avec peut-être quand même cette petite restriction qu'on avait observée après la grande crise de 2008, où les bourses étaient un petit peu dégonflées et qu'on avait un petit peu serré la ceinture, mais ça n'a pas duré très longtemps.
On va revenir tout à l'heure sur le caractère sexiste des jouets, parce que c'est un des points importants. Je voulais juste, avec vous, Isabelle Mazarguil, éclaircir un point qui m'a surpris quand j'ai lu votre livre. Vous dites, et je reviens aux marques et à la façon dont elles imposent le choix des cadeaux, ces marques, dites-vous, permettent des liens nouveaux entre les parents et leurs enfants. Vous êtes toujours là ? Ah, elle est partie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel Fils ?
Je pense que le jouet permet de concilier les générations, parce qu'on peut se retrouver sur des amours partagés. Évidemment, il y a eu la grande vogue des jeux vidéo, par exemple. On sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, les premiers consommateurs de jeux vidéo sont les adultes. Ce sont eux les grands pratiquants. Oui. Mais sans doute parce qu'ils ont commencé très très tôt et qu'ils n'ont jamais perdu cette habitude de consommation. Donc le jouet peut aussi être fédérateur, en remontant très très loin dans le temps. À mon époque, quand il y avait le train électrique, on savait très très bien que les pères allaient jouer au train électrique autant que leurs enfants et prendre autant de plaisir que les enfants.
Est-ce que les parents doivent, on va dire, se résigner ou résister à cette demande d'être dans l'air du temps comme les copains, d'une certaine manière, exprimés par les enfants?
Je pense qu'on doit fixer le code de bonne conduite. On doit fixer les règles morales. Ce qui veut dire, déjà, pour les parents, informer les enfants du budget disponible. Je crois que les parents, parfois, ne sont pas suffisamment audacieux pour dire « nous n'avons pas, malheureusement, la possibilité de vous faire 3-4 cadeaux différents, donc il faudra effectivement différer certains achats ». Je pense qu'il faut tenir quand même la barre de la réalité financière, et ne pas, évidemment, exploser le budget des familles. Parce qu'il y a aussi le budget alimentaire à côté, qui est aussi un peu amélioré, comme l'on dit, ce jour de Noël.
Alors Isabelle Mazarguil est de retour en ligne. Je vous pose à vous aussi la question, à savoir si les parents doivent se résigner ou résister à la demande de leurs enfants d'avoir tel ou tel jouet. Alors, de marque, puisque c'est une de vos un de vos points forts, un de vos fondements, je dirais, de votre réflexion.
Tout à fait. Alors, je dirais que moi, j'ai la conviction profonde qu'aujourd'hui, les parents sont conscients que tout acte de consommation, si tant est qu'il soit fait devant les enfants, et l'acte de consommation d'acheter des cadeaux de Noël en étant, est aussi un acte d'éducation. On passe des messages aux enfants quand on consomme. Et ces messages-là, ils durent après, ils perdurent. Et donc, je rejoins assez largement Michel Fies lorsqu'il dit que, effectivement, les parents devraient aller jusqu'à expliquer le niveau d'investissement, faire des rapports pour essayer de dire, voilà, tel jouet, ça vaut tant, tu vois, ça équivaut à telle autre chose. Et je pense qu'effectivement, cette notion d'éducation à la consommation, elle passe par le fait, parfois, de savoir résister et de savoir dire tout simplement, tu vois, ce cadeau, il te plaît parce que, pour un certain nombre de raisons, mais finalement, il ne t'apporte pas ce que moi, je souhaiterais t'apporter. Mmh. Et c'est le sens de cette réflexion dans laquelle sont les familles testeuses dont je vous parlais tout à l'heure, qui testent finalement ces jouets en famille, qui les évaluent parents comme enfants, et qui, à l'issue d'une évaluation qui se fait dans la durée, se réunissent autour de la table pour dire pourquoi est-ce que ça a correspondu à leurs attentes ou pas, point de vue parental et d'un point de vue de l'enfant.
Parce qu'il y a, Michel Fies, quand même un risque de stigmatisation pour ceux qui n'ont pas les moyens.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut jouer la transparence financière, comme je disais tout à l'heure, sans pénaliser évidemment l'enfant d'un objet dont il peut avoir besoin, parce que c'est aussi celui qui est en vogue au moment donné, et que s'il ne l'avait pas par rapport à ses camarades, il serait pour le coup pénalisé. Donc il faut faire attention à la double peine, hein, si l'on peut dire, hein, être pénalisé par ses parents et être pénalisé par ses pairs, PAIRS, ensuite. Alors, ceci étant, je pense que il faut aussi peut-être retrouver le goût de, vous savez, il y a quelques années, on avait assisté au retour du jouet en bois, voilà, les jouets d'autrefois, hein, je pensais tout à l'heure au cheval à bascule. Alors d'ailleurs, avec bascule ou pas bascule, hein, peu importe, hein. Je pense que le jouet de Noël, il peut effectivement avoir une fonction utile. Il peut être un support éducatif, mais il faut aussi que des jouets soient des jouets qui ne servent nullement, qui soient pour le plaisir, pour s'amuser. Voilà, dans une société tellement, tellement stressante, et déjà pour les enfants, parce qu'on leur demande beaucoup à l'école, voilà, bah, qu'ils prennent aussi un objet qui peut-être ne servira à rien.
Ils ont quand même des, ils ont quand même des demandes très stéréotypées et qui sont liées, je veux dire, à ce que les copains demandent eux aussi. On demande des Lego, on demande des Barbie, on demande, quand on est un peu plus grand, des iPhones ou des smartphones. Il y a quand même cette pression.
Vous savez, bon, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Anti-manuel d'adolescence, hein, qui explique l'importance de ce conformisme du groupe, hein, et qui apparaît très vite chez les enfants, qui d'ailleurs ne le reste pas très longtemps, hein. D'ailleurs, ce qui permet de dire que à partir de 8-9 ans, déjà les choses vont commencer à, je dirais, s'améliorer, parce qu'on va commencer à demander plutôt de l'argent, hein, ce qui est le propre d'ailleurs des adolescents, qui reçoivent surtout de l'argent plutôt que des cadeaux, ce qui simplifie quand même singulièrement la question de quel type d'achat on va faire. Mais je pense qu'effectivement, les enfants sont contraints de suivre à minima, hein, les orientations du marché telles qu'ils apparaissent dans la cour de récréation, qui s'alimentent des images publicitaires, des séries télévisées, pas forcément d'ailleurs uniquement les séries des enfants, hein, parce que les enfants regardent surtout les séries des catégories d'âge du dessus. Voilà, ils vont faire leur marché.
Est-ce que cette nouvelle donne, Isabelle Mazarguil, cette consommation obligatoire, on va dire, modifie le rôle des parents, selon vous?
Moi, je dirais que ça oblige encore plus les parents à restaurer une fonction de guide, une fonction d'apprenant. Apprendre à consommer, apprendre la valeur des choses et apprendre l'utilité des choses. Je rebondis sur ce que disait Michel Fies à l'instant sur avoir aussi des jouets qui ne servent à rien, simplement qui sont là pour le plaisir. Nous, ce qu'on observe beaucoup dans les dernières tendances, c'est le jouet à partager. le jouet à partager en famille. On a notamment une dynamique très forte du marché des jeux de société, par exemple, qui témoigne d'une volonté aussi de partager des moments de jeu qui sont des moments de construction d'une expérience familiale. Cette année, dans les grandes tendances, on a à nouveau les jeux de construction ou les loisirs créatifs, qui sont aussi des jeux et des jouets qui sont du domaine du partage et qui, encore une fois, permettent aux parents de partager avec l'enfant. Et je pense que, finalement, ça fait partie aussi de ce guidage qui est propre au rôle parental vis-à-vis des enfants, que de leur apprendre à jouer et à partager des moments au travers du jeu.
Alors, je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Michel Fils, et qui est fondamental, je pense. Qu'en est-il de la répartition donc des jouets entre garçons et filles, traditionnellement marquée, on le sait, hein, les armes factices pour les garçons, les poupées pour les filles. Est-ce que les choses évoluent à ce niveau-là?
Ah ben là, je pense que depuis une vingtaine d'années, le marché s'est à nouveau très segmentisé entre masculin et féminin, et qu'on est revenu à des objets propres aux petites filles et propres aux petits garçons, en tout cas étiquetés de cette manière, hein, parce que par définition, je lisais que les objets étaient sexués. Et non, un objet n'est pas sexué. Hein. Un objet, il appartient selon la grammaire au genre masculin ou au genre féminin, mais c'est tout. Il fait rien d'autre. Hein. Un cheval à bascule, c'est ni pour les petits garçons ni pour les petites filles a priori. Bon, sauf qu'effectivement, quand on habille le cheval en rose ou en bleu, on ne donne pas la même signification. Donc, on intime effectivement aux enfants de se positionner selon un schéma genre masculin-féminin. Et tout ça pour gagner de l'argent, il faut être clair.
Mais pourquoi est-ce que la volonté du gouvernement, d'une partie de la société civile qui sont soucieux d'égalité, de parité, parvient à renverser cette tendance rose-bleue telle que vous la définissez, ou du moins créer des territoires communs, on va dire, aux garçons et aux filles?
Ben, d'abord, bon, tout n'est pas complètement figé entre masculin et féminin, mais il faut bien savoir qu'en fin de compte, les enfants ne font que reproduire ce que j'appelle, moi, le retour de la féminité adulte, assumée, montrée, avec fierté, hein, parce qu'encore une fois, si les petites filles ne voyaient pas des animatrices de télévision ou autres, hein, avec des chaussures à talons aiguilles, comme on faisait autrefois, bah, ça ne leur donnerait peut-être pas envie de faire la même chose très tôt, très vite.
Bon, Isabelle Mazarguil, sur ce point, alors j'aimerais entendre votre avis, votre commentaire.
Oui, alors moi j'ai toujours un point de vue qui est un peu différent sur ce sujet-là. Il est vrai que quand vous observez des rayons de magasins de jouets, il y a beaucoup de roses et beaucoup de bleus. Alors on peut penser que c'est de la manipulation marketing. Dans certains cas, j'ai envie de dire, c'est simplement une manière de se distinguer. Quand vous avez quatre microscopes qui font tous à peu près la même chose, il est évident que celui qui a envie d'émerger, c'est une pratique assez simple que de le peindre en rose, avec pourquoi pas une mascotte qui correspond à une star ou une personnalité préférée des petites filles du moment, pour plutôt attirer vers lui que vers un autre. Ensuite, moi je dirais que c'est la pratique des enfants qui compte. Et notre expérience, c'est quand même que... quand un parent demande un conseil pour savoir quel jouet acheter à un enfant, la première chose qu'il va dire, c'est « Bonjour, ma fille de 5 ans souhaiterait un jeu de construction. Mon fils de 9 ans cherche un jouet technologique. » Et c'est d'abord comme ça qu'on définit un enfant, par son sexe.
Donc on n'échappe pas
au
genre.
Après, moi, ce que je voudrais... Oui, on n'y échappe pas, mais moi ce que je voudrais observer, c'est quand même que les jouets connectés, en particulier les nouvelles technologies et les tablettes...
Rassemblent tout le monde. On ne peut pas en dire plus, malheureusement, Isabelle Mazarguil. Merci beaucoup de votre intervention, fondatrice de l'Institut Junior & Co. et auteur de Maman, Papa, la consommation et moi, paru aux éditions EMS. Et puis Michel Fils, sociologue, chercheur au CNRS. Je cite un autre de vos livres, L'adolescence pour les nuls. Et puis j'ajoute que vous êtes désormais conseiller régional d'Île-de-France.
Merci.
Et merci à Florence Ponce également, Tavaner, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Demain, avec nos invités, on s'interroge sur les racines chrétiennes de Noël. Bonsoir à tous, un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.
Appelez-nous, exprimez-vous.